Radio Prague, les informations.
La grève des transports en commun pragois n'est toujours pas conjurée. L'Institut pour l'étude des régimes totalitaires publie la liste des membres des services secrets communistes. Recherche de l'eurocommissaire tchèque, toujours pas de nom. Le syndicat des transports en commun pragois et la municipalité de Prague n'ont toujours pas trouvé un compromis sur les 7 revendications présentées par les syndicalistes. Les syndicats ont lancé un préavis de grève à cause du licenciement prévu de 300 employés de la société des transports en commun fin janvier. La municipalité dispose maintenant d'un délai jusqu'à minuit de ce mercredi pour réagir aux revendications des syndicats. C'est la confusion qui règne autour du choix du futur commissaire européen pour la République tchèque ce lundi. La discussion du gouvernement visant à le choisir ont été interrompues. La décision est reportée à mardi matin en réunion extraordinaire ce week-end. Le premier ministre Jan Fischer avait décliné l'offre de l'ODS et du CSSD de prendre le poste. À l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires a décidé de rendre publique la liste des membres des services secrets communistes tchécoslovaques, SNB. Sur le site internet de l'Institut se trouvent également les noms des agents qui ont travaillé à l'étranger jusqu'au 17 novembre 1989. C'est la toute première institution de l'ancien bloc de l'Est à publier ainsi ces données. D'après l'édition de ce lundi du quotidien Mladá Fronta Dnes, deux officiers d'une unité d'élite de l'armée tchèque servant en Afghanistan portaient des emblèmes nazis sur leur casque pendant toute la durée de leur service dans la province de Logar. L'un des deux officiers a exprimé ses regrets, arguant qu'il s'agissait d'une blague. D'après un nouveau sondage, 88% des Tchèques seraient insatisfaits de la situation politique actuelle. D'après les analystes, les personnes interrogées ont perçu de manière très négative tous les conflits récents autour de l'organisation ou pas d'élections législatives anticipées. 2/3 des personnes interrogées s'inquiètent également des conséquences que cette instabilité politique peut avoir sur l'image de la République tchèque à l'étranger. Le court-métrage Baba de Zuzana Špidlová va être distribué à partir du 19 novembre dans les salles de cinéma tchèques. Baba a remporté en mai dernier le premier prix du film étudiant dans le cadre de la Cinéfondation à Cannes. Deuxième film d'étudiant à être projeté bientôt dans les salles. Deuxième acte, Dolmo Omerzo. Les deux courts-métrages de ces étudiants de la faculté de cinéma de Prague ont été distingués et récompensés dans de nombreux festivals. Météo. Ce lundi, fête de tous les Bohdan, Dieu donné. Selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est couvert et il pleut par endroits. Les températures se situent entre 8 et 12 degrés pour les maximales mardi. Le temps en Tchéquie sera couvert à nuageux et il bruinera par endroits. Les températures de Jurne ne dépasseront pas 9 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous à l'écoute de ces premiers faits et événements de la semaine. Nous commencerons avec un événement que toute l'Europe célèbre ce 9 novembre, la chute du mur de Berlin il y a de cela 20 ans. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous vous proposerons une série d'émissions préparées par Radio Prague pour le prochain 20e anniversaire de la chute du communisme en Tchécoslovaquie. Vous entendrez l'historien français Bernard Michel qui s'est retrouvé au milieu des manifestants dans les rues de la capitale tchèque en novembre 1989. Nous finirons avec une triste nouvelle, la disparition d'Otmar Krejča, metteur en scène et homme de théâtre célèbre qui a vécu et créé aussi en France. Ce sera juste avant de passer, comme tous les débuts de semaine, à l'actualité sportive et au magazine musical. Très bonne écoute à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. « Ce lundi 9 novembre, toute l'Europe s'est donné rendez-vous à Berlin pour revivre l'effondrement du symbole de la guerre froide il y a de cela 20 ans. Le point culminant de la cérémonie près de la porte de Brandebourg, le renversement d'une chaîne de dominos d'Estelle, symbolisant l'ancienne barrière en béton et barbelé, en présence de politiciens actuels et anciens, le chef de la Fédération russe Dmitri Medvedev, le dernier leader soviétique Mikhail Gorbatchev, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, ou l'ancien dissident et président polonais Lech Walesa, le premier à avoir défié l'étau communiste. Le président Václav Klaus et le premier ministre Jan Fischer représentent la République tchèque qui a servi en automne 1989 de territoire de transit pour des milliers d'anciens citoyens est-allemands fuyant en Berlin-Ouest via l'ambassade de la RFA à Prague. La chute du mur qui divisait pendant 28 ans les deux Berlins annonçait la réunification de l'Allemagne mais aussi de l'Europe. Le caméraman Stepan Benda, un des milliers de Tchèques exilés après 1968, a raconté à la télévision tchèque comment il s'était rendu à Berlin ce jour-là du 9 novembre 1989.
J'ai reçu un coup de téléphone de la part d'un ami à Londres, des émissions tchèques de la BBC. Il m'a dit qu'on avait entendu parler que les premiers coups de marteau ébranlaient le mur et il m'a incité d'y aller. Je suis donc allé voir ça de près et d'une cabine téléphonique, je lui ai raconté ce qui se passait.
Les pessimistes en Tchécoslovaquie, le dernier bastion du communisme en Europe avec la Roumanie, croyaient que le régime se maintiendrait au pouvoir encore pendant 20 ans. Les optimistes ne comptaient que par jour et semaine sa vie, en attendant de saisir une opportunité. Novembre 1989, quelques jours après la chute du mur de Berlin, la Tchécoslovaquie allait à son tour entamer sa révolution pour faire tomber le régime communiste. Les événements étaient couverts par tous les médias internationaux. De nombreux étrangers sont venus partager ces moments historiques avec les populations concernées. C'est ainsi que l'historien Bernard Michel se retrouvait au milieu des manifestants dans les rues de la capitale tchèque. Il était venu à Prague pour la première fois en 1957, alors qu'il était étudiant. Aujourd'hui, il est historien, spécialiste des pays tchèques, professeur émérite à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il a fondé le centre de recherche sur l'histoire de l'Europe centrale contemporaine. Il a également reçu en 2005 le titre de docteur honoris causa de l'université Charles de Prague. Il a confié au micro d'Anne-Claire Velluire ses souvenirs de ce mois de novembre 1989.
Depuis la chute du mur de Berlin, j'attendais également la chute du régime en Tchécoslovaquie. Et donc, dès que j'ai appris que cela commençait après le 17 novembre, je suis venu immédiatement chez des amis pour pouvoir participer aux manifestations et être un témoin. Voilà. Et alors, je connaissais bien les gens du théâtre Nazabradli. J'avais des amis. Et donc, je suis venu fin novembre au théâtre Nazabradli. À Bradley, et j'ai pris la parole sur scène, voyez, pour dialoguer avec la salle, et je suis venu insister surtout sur une idée simple, c'est que l'un des premiers objectifs de la révolution tchécoslovaque, lorsqu'elle aurait réalisé la démocratie, était de préparer son entrée dans l'Union européenne, en particulier par une entente avec ses voisins, notamment avec la Pologne, qui joue à ce moment-là un rôle de premier plan. Et alors, j'ai bien sûr été dans les manifestations de rue également. J'ai été sur la place Saint-Venceslas entendre parler non seulement Havel, mais également beaucoup d'autres. Le père Mali, par exemple, qui avait à ce moment-là un énorme succès dans l'opinion publique. Je suis donc reparti au début du mois de décembre, lorsque il était clair que la révolution avait gagné. Par la suite, j'ai été le premier étranger admis à voir, en 2004, les archives du STB. Et j'ai vu des dossiers qui concernaient la famille de ma femme, qui avait été condamnée lors du régime communiste. Et moi-même, j'ai dit, écoutez, vous pourriez peut-être me donner aussi mon dossier. Et alors, à ce moment-là, j'ai donc reçu une lettre me disant, votre dossier a été détruit le 4 décembre. C'est-à-dire juste au moment où j'étais dans la rue. Ça veut dire que c'était le début. Le STB a commencé à détruire le 3 et le 4 décembre. Et ça veut dire que mon dossier était sur le sommet de la pile. Et tout ce qu'ils m'ont appris, c'est que j'étais suivi à ce moment-là par deux directions de la Contra Rosietka.
Vous avez parlé du théâtre Nasa Bradley. C'était un lieu hautement symbolique puisque c'est le théâtre dans lequel Václav Havel a travaillé. Qu'est-ce qui se passait pendant cette période-là au théâtre? J'imagine que c'était pas des représentations de théâtre classique.
Alors, ce qui s'est passé, ça a été un moment fabuleux. C'est que le théâtre Nasa Bradley a décidé de suspendre ses représentations et elle accueillait sur la scène des gens qui étaient des personnalités, qui étaient certains étaient revenus d'exil et pouvaient parler pour la première fois. Il y avait beaucoup d'artistes qui avaient été écartés après 69 et donc pendant ces soirées-là, c'était un dialogue entre les gens qui étaient sur le plateau du théâtre et la foule. Et alors, j'avais été chargé par l'ambassadeur de France d'amener à ce moment-là des Tchèques parlant français pour pouvoir prendre contact. Il y avait une délégation de 4 hommes politiques français qui venaient d'arriver, et je suis donc allé amener un Tchèque que je connaissais bien, qui avait été écarté après 1969 et qui était laveur de vitres, et que j'ai accompagné à l'ambassade. Et c'était la première fois qu'il allait dans une ambassade. Il ne m'avait pas dit à ce moment-là qu'il venait d'être chargé par le mouvement civique de toute la politique extérieure. Et il est devenu après ambassadeur à Paris, puis ministre des Affaires étrangères. C'était Jaroslav Chidivi.
Je vous l'ai dit en titre, vendredi dernier, décédé à l'âge de 87 ans, le metteur en scène de théâtre Otomar Krejča. Fondateur du théâtre Divadlo Zabrano, théâtre derrière la porte, il fut empêché dans ses activités pendant les années de normalisation, avant de retrouver sa place après 1989 à Nakubishta.
C'est une grande figure du théâtre qui vient en effet de disparaître. Après avoir été membre de deux scènes pragoises, Otomar Krejča entre au prestigieux Théâtre National en 1951, où il sera à la fois comédien, directeur artistique et metteur en scène. Mais c'est 1966 qui est l'une des grandes dates de la carrière d'Otomar Krejča. Cette année-là, il fonde le célèbre théâtre Divadlo Zabrano. Karel Kraus, directeur littéraire et cofondateur du Divadlo Zabrano, s'était souvenu en 2005 de la création du théâtre, au micro de notre collègue Magda Rosenkova.
Avant de fonder ce théâtre Zabrano, nous avons travaillé dans des grands théâtres, surtout au Théâtre National. Et ces grands théâtres ressemblaient plutôt à des usines, à des ateliers de production, je ne sais pas quoi, où tout était très compliqué, assez bureaucratique. Et où était très difficile de faire valoir ses propres intentions, ses propres vues sur l'art. Alors, après cette expérience, nous nous sommes décidés d'essayer de faire un théâtre qui répondrait à notre goût, à nos ambitions, disons, artistiques, et de ne faire que ce que nous voulons faire, ce que nous voudrions faire. C'était assez téméraire, peut-être.
En plein dégel culturel et politique des années 60, le Divadlo Zabrano se distingue par ses mises en scène qui restent des références dans l'histoire du théâtre tchèque. De Tchekhov à Sophocle, en passant par Alfred de Musset ou encore Josef Topol, pour aller tchèque, le Divadlo Zabrano est le lieu d'un bouillonnement intellectuel et créatif sans précédent. Mais en 1972, la normalisation frappe, le théâtre est fermé, sonnant le glas d'une époque déjà close par l'invasion soviétique en 1968. Le spécialiste du théâtre, Vladimir Yust, se souvient.
Ten brutální zákaz likvidace, bych řekl, divadla zabranou v té době...
Cette interdiction brutale, cette liquidation du théâtre était quelque chose d'incroyable. À l'époque, le Divadlo Zabrano était le plus célèbre théâtre tchèque dans le monde et cette interdiction s'est faite en dépit des protestations de Friedrich Dürrenmatt, Arthur Miller ou Ingmar Bergman. Ce théâtre n'était pas politique, il ne faisait que parler de manière vraie de l'homme, des relations, de la société.
Mais parler vrai sous le communisme et sous la normalisation, c'était évidemment et obligatoirement un crime de lèse-majesté. Otomar Krejča va devoir alors se reconvertir et c'est de l'étranger que viendra le salut. Vladimir Just.
Paradoxalement, ça a permis à Otomar Krejča de mieux se faire connaître dans le monde. Il a monté des mises en scène à Vienne, en Avignon, en Belgique, etc. C'était vraiment un metteur en scène européen connu dans le monde.
Après la révolution de velours, Otomar Krejča sera réhabilité. Le théâtre Divadlo Zabrano rouvrira ses portes au public avant de disparaître définitivement en 1994. Otomar Krejča réintègre le théâtre national pour 2 ans. Il met en scène Faust. Mais comme le déplore nombre de ses admirateurs, il ne bénéficiera guère du soutien qu'il aurait mérité en dépit des reconnaissances formelles sous forme de distinctions et autres médailles.
C'était les faits événements. Merci de les avoir écoutés. Le programme sur Radio Prague continue avec le sport.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au programme riche et varié puisqu'il sera question cette fois de 5 disciplines différentes avec du tennis, du football, du patinage de vitesse, du patinage artistique et enfin du cyclo-cross. En tennis, tout d'abord, Radek Štěpánek et Tomáš Berdych disputent cette semaine l'Open de Paris à Bercy. Il s'agit de leur dernier tournoi avant ce qui constituera l'un des plus grands moments de l'année sportive en République tchèque, la finale de la Coupe Davis contre l'Espagne à Barcelone du 4 au 6 décembre. L'épreuve indoor parisienne qui compte pour le Masters 1000, deuxième catégorie de tournoi les plus importants de la saison après les Grands Chelems, réussit plutôt bien aux deux joueurs tchèques puisque Tomáš Berdych l'avait remporté en 2005, tandis que Radek Štěpánek était parvenu jusqu'en finale l'année précédente. Cette fois, Tomáš Berdych affrontera le français Vincent Millot au premier tour. Radek Štěpánek, tête de série numéro 13, faisant lui son entrée en matière à partir du deuxième tour. Et Radek Štěpánek arrive en forme dans la capitale française puisqu'il a disputé samedi les demi-finales du tournoi de Bâle en Suisse. Le Tchèque y a été battu par le Serbe Novak Djokovic, numéro 3 mondial, en 3-7, 7-6, 5-7, 2-6 et peut nourrir de gros regrets puisqu'il n'a pas su profiter de 3 balles de match consécutives dans la deuxième manche quand il menait 5 jeux à 4 et 40 à 0 sur le service de Djokovic. Des regrets d'autant plus gros que le Serbe s'est ensuite imposé en finale contre le numéro 1 mondial, Roger Federer en 3-7. Radek Štěpánek, qui a ainsi vu s'envoler ses derniers espoirs de se qualifier pour le Masters, qui réunira à Londres à la fin du mois les 8 meilleurs joueurs de la saison, a donc l'occasion de se remettre de cette petite déception à Paris avant d'entamer avec Tomáš Berdych la préparation pour la finale de la Coupe Davis. En football, se disputait ce week-end la 14e journée de la Gambrinus Liga, le championnat tchèque. Cette journée était marquée par la confrontation entre les deux équipes surprises de cette première moitié de saison, Teplice et Jablonec, qui étaient leaders avec le même nombre de points. À l'issue d'une rencontre équilibrée et sans grand éclat, c'est Teplice qui s'est imposé devant son public sur la plus petite des marges, 1-0. Mais au coup de sifflet final, l'entraîneur de Teplice, Jiří Plíšek, estimait que le sort du match s'était joué sur quelques détails.
To bylo velmi těžké utkání, myslím si, že v obou straně velmi vyrovnaný.
Cela a été un match très difficile, équilibré entre deux équipes d'un niveau très proche. Nous avons eu affaire à un adversaire très solide dans un match qui a été pour nous l'un des plus durs depuis le début de la saison. C'est le genre de match où l'équipe qui marque en premier généralement l'emporte. Et c'est ce que nous avons fait en début de deuxième mi-temps sur un but un peu chanceux. Jablonec a eu aussi une ou deux occasions sans les concrétiser, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la réussite était de notre côté.
Grâce à cette victoire, Teplice est désormais assuré de terminer les matchs allés à la première place et remporte ainsi le titre honorifique de champion d'automne. On passe au patinage de vitesse. La Coupe du Monde a débuté le week-end dernier sur l'anneau de Berlin. Martina Sablikova, sans doute le plus grand espoir de médaille tchèque aux Jeux Olympiques de Vancouver en février prochain, a frappé d'entrée un grand coup en remportant d'abord le 3000 mètres vendredi, puis en terminant deuxième du 1500 mètres dimanche. Sur 3000 mètres, une distance sur laquelle elle a été sacrée vice-champion du monde la saison dernière, la tchèque a devancé de plus de 5 secondes sa première dauphine, la japonaise Masako Ozumi. Cette victoire a confirmé la suprématie de Sablikova sur les distances de fond, à savoir les 5000 et 3000 mètres, mais c'est sur 1500 mètres qu'elle a surpris en montant sur la deuxième place du podium, seulement devancée de 1 seconde et 45 centièmes par la canadienne Christine Nesbitt, déjà vainqueur sur 1000 mètres. Une performance inattendue sur une distance sur laquelle Martina Sablikova ne se spécialise pas, mais qui n'a pas surpris l'entraîneur de la quintuple championne du monde, Petr Novák.
Je pense qu'il s'agit avant tout de prendre un départ un peu plus rapide. Car si on fait l'analyse de son 3000 mètres, qu'elle a remporté en 4 minutes et quelques dixièmes de seconde, on s'aperçoit qu'elle parcourt deux fois 1500 mètres en 2 minutes. On pouvait donc s'attendre à ce qu'elle boucle le 1500 mètres aux alentours de 1 minute 57.
Cette performance confirme donc les propos de l'entraîneur de Martina Sablikova qui estime que, outre les 5000 et 3000 mètres dont elle sera favorite, sa protégée peut également viser une médaille sur 1500 mètres aux Jeux de Vancouver. Toujours en patinage, mais artistique cette fois, on connaissait déjà Tomáš Werner, champion d'Europe en 2008 et grand espoir de médaille tchèque aux Jeux Olympiques. On connaissait nettement moins Michal Březina, mais dimanche, le jeune tchèque a signé une performance de choix en terminant troisième du trophée NHK à Nagano au Japon. Sur la patinoire olympique de 1998, Michal Březina a été devancé par le français Brian Joubert, vainqueur des programmes courts et libres, et l'américain Johnny Ware. À 19 ans, Michal Březina, vice-champion du monde, junior en titre, qui participait à la première épreuve du Grand Prix chez les seniors, a ainsi signé une des plus belles performances d'une carrière qui s'annonce déjà prometteuse. Et puis on termine avec un mot de cyclocross. Zdeněk Štybar a terminé deuxième de la troisième épreuve de Coupe du Monde disputée dimanche à Nomé en France. Le coureur tchèque a été devancé de l'épaisseur d'un boyau sur la ligne d'arrivée par l'inévitable Nils Albert. Le Belge, champion du monde en titre, a signé sa troisième victoire en autant de manches de Coupe du Monde depuis le début de saison. Déjà deuxième à Trévise et troisième à Pilsen, Zdeněk Štybar, vice-champion du monde, là aussi derrière Nils Albert, est lui monté sur le podium également pour la troisième fois. Une régularité dans le résultat qui ne doit toutefois sans doute pas l'empêcher de pester sur le fait qu'il se trouve toujours au moins une marche en dessous du coureur flamand.
Merci à Guillaume et voici encore une rubrique que vous retrouvez sur Radio Prague.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Récemment, nous sommes rappelés le 210e anniversaire de la mort de Karl Dieters von Dietersdorf, qui se classait parmi les compositeurs les plus populaires de son époque en Bohême et en Autriche. Originaire de Vienne, il devient en 1761 soliste à la cour impériale. Il travaille par la suite en Allemagne, en Italie et réside plusieurs années à Berlin et à Vienne. Parmi ses amis, il y a quelques-uns des plus grands compositeurs de son temps, dont Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn et le poète Pietro Metastasio. Parmi ses élèves, il y a le futur compositeur célèbre Jan Křtitel Vaňhal. Pendant un temps, il dirige aussi l'orchestre de l'évêque de Grosswardein, aujourd'hui Oradea en Roumanie. Finalement, il s'établit à Javornik en Silésie, où il entre au service du comte Shavgotch, évêque de Wrocław. C'est grâce à ce mécène généreux que Karl Dieters von Dietersdorf peut créer un orchestre et composer pour cette formation de nombreuses œuvres. Il est auteur de 120 symphonies, d'une quarantaine d'opéras, de dizaines de concertos et d'autres œuvres. C'est grâce au label Supraphone que nous disposons d'un enregistrement intégral de ces symphonies inspirées des Métamorphoses d'Ovid, ensemble de compositions à programme qui est probablement son œuvre la plus originale.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10.30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz, y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.300.